Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministère du Commerce va élargir de nouveaux marchés. La participation des femmes aux politiques doit être augmentée. Aung San Suu Kyi se rendra en Indonésie à la fin janvier. Le Parlement indonésien demande au commandant en chef de TNI sur la question de suspendre la coopération avec l'Australie. Le gouvernement indonésien améliore l'infrastructure pour augmenter le nombre de touristes. Le ministre de l'Agriculture appelle l'Indonésie de passer avec succès El Nino et La Nina. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministère du Commerce a essayé de maintenir la balance commerciale à travers l'application des politiques d'exportation et d'importation et le climat d'affaires concurrentiel. Pour améliorer le climat des affaires, le ministère du Commerce a fait la déréglementation d'importation et d'exportation en simplifiant 49 licences. Le ministre du Commerce, M. Enggar Tiasto Lukito, dans une conférence de presse hier, a déclaré qu'en 2016, la balance commerciale de l'Indonésie a subi un excédent, mais la valeur des exportations et des importations ont diminué. Cela se produit en raison du ralentissement économique mondial. À cette fin, le ministère du Commerce va faire une percée à travers l'expansion des nouveaux marchés et la diversification des produits, ainsi que les efforts de pénétration et de l'accès au marché par le via des négociations commerciales internationales.
Membuka pasar baru di luar pasar-pasar tradisional yang tetap kita garap, yaitu Eropa.
D'ouvrir de nouveaux marchés au-delà des marchés traditionnels que nous exploitons, à savoir l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine, etc. Mais le nouveau marché qui sera une priorité et qui aura de côté le type de produit lui-même et d'autre part, nous devons conclure des accords qui ne sont pas résolus, tant bilatéraux et multilatéraux. Le ministre Enggar Tiasto a déclaré que c'était tous les pays d'Afrique, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Iran, le Moyen-Orient et la Russie. En 2016, le ministère du Commerce encourage l'excédent de la balance commerciale, entre autres, avec la mission commerciale telle que Kuwait, l'Oman et la Nigeria-Ghana qui donnent la transaction totale de 18,38 millions de dollars américains. En outre, la mission de l'achat mission a également obtenu avec succès le commerce de 211,87 millions de dollars américains. Le ministre du Commerce, M. Enggar, a déclaré que le ministère du Commerce continuerait d'encourager l'excédent de la balance commerciale pour 2017 avec l'augmentation de la compétitivité des produits d'exportation. La compétitivité continue d'être améliorée en facilitant le développement de produits et la fourniture d'informations sur le marché. L'augmentation de la participation des femmes indonésiennes aux activités politiques devrait obtenir la plus grande attention du gouvernement. La coordinatrice de l'Alliance pour les femmes et la politique, Yuda Irlang, a déclaré mercredi à Jakarta que la représentation des femmes en politique n'atteint que 18%, en deçà de la cible de 30% initiée par la loi. Au cours des prochaines élections générales en 2019, Yuda Irlang s'attend à ce que l'objectif de 30% de représentation des femmes soit atteint. Les femmes doivent lutter pour atteindre une position plus élevée en renforçant les politiques affirmatives qui sont mentionnées dans la loi, de sorte que l'objectif de 30% de la représentation des femmes peut être atteint. En outre, Yuda Irlang a déclaré que pour accroître la représentation des femmes en politique, il a encouragé les partis politiques et les étatiques à jouer leur rôle pour soutenir cet effort. Selon elle, l'État et les partis politiques étaient l'élément le plus important pour jouer leur rôle dans la création des politiques qui soutiennent le développement des femmes en politique. Le leader de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, visitera l'Indonésie à la fin de janvier 2017 comme une visite d'introduction depuis que ce pays a un nouveau gouvernement en mars 2016. Cela a été déclaré l'ambassadeur de Myanmar en Indonésie, Ou Aung To, en marge de la 69e commémoration de l'indépendance de Myanmar à Jakarta mercredi. La visite des conseillers Aung San Suu Kyi en Indonésie vise à dialoguer avec le dirigeant de l'Indonésie et aussi exprimer ses remerciements pour l'aide et le soutien au peuple de Myanmar. Le 29 décembre 2016, le président Joko Widodo a libéré 10 conteneurs d'aide humanitaire de la population indonésienne pour les gens de Rakhine au Myanmar. En outre, le gouvernement de Myanmar espère, à travers la visite de Aung San Suu Kyi, les relations entre les deux pays plus étroites, notamment dans la coopération économique. À présent, il y a des bonnes coopérations entre les entreprises de l'Indonésie et ses partenaires au Myanmar dans la construction des hôpitaux. Et le gouvernement de Myanmar veut encourager l'augmentation de l'investissement et la coopération commerciale entre les deux pays. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président de la Commission 1 du Parlement, Mutia Hafid, a déclaré que des retards de relations de coopération entre TNI et la Force de défense australienne auraient un impact pour les deux pays. Par conséquent, il a demandé l'explication au commandant en chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, lié au retard de cette coopération. Mutia Hafid, dans les réseaux sociaux, a déclaré mercredi: le commandant de TNI devrait expliquer parce que cette question liée à la sensibilité des relations entre les deux pays. Si la raison est bonne, le gouvernement se tiendra. Comme écrit Compass.com, Mutia a admis que jusqu'à présent, elle n'a pas reçu les informations liées à le retard de coopération de la TNI et le ministère des Affaires étrangères. Selon Mutia Hafid, chaque retard de coopération a l'impact énorme et inconvénient pour les deux pays. Par conséquent, il espère que TNI et le ministère des Affaires étrangères ont une bonne raison. Le gouvernement améliore les infrastructures touristiques et la gestion des déchets pour augmenter le nombre de touristes qui visitent l'Indonésie. En plus de l'infrastructure, le gouvernement prépare l'hébergement et le transport dans quelques sites touristiques. Cela a été déclaré le ministre de Coordination Maritime, M. Luhut Binsar Panjaitan, au Palais de Bogor mercredi. Selon le ministre Luhut, il est en train de résoudre le problème des déchets déversés dans la mer qui peut contaminer la mer. Le gouvernement utilise les déchets en une source d'énergie électrique. Lié à la construction d'installations d'hébergement touristique, on va améliorer l'investissement à Mandalika, Nusa Tenggara West. Le président Joko Widodo continue à surveiller le développement des infrastructures dans le lac Toba, Sumatra Nord, qui apportera 20 millions de touristes étrangers en Indonésie en 2019. Le ministre de l'Agriculture, M. Andi Amran Sulaiman, a révélé l'Indonésie était en mesure de passer la menace d'événements El Niño en 2015 et La Niña en 2016. La réussite de l'adaptation de ces deux événements en 2016, il n'y avait pas de pénurie, si bien que la production alimentaire augmente. Les importations alimentaires ont diminué, même il n'y avait pas d'importation. C'est ce qu'a déclaré M. Amran Sulaiman à travers un communiqué de presse reçu par republica.co.id mercredi. Relatif à la performance d'exportation et d'importation pendant 2 années de travail, Amran Sulaiman a ajouté qu'il n'y avait pas d'importation de riz. Les exportations de riz ont augmenté de 43,7%. Les importations de maïs ont chuté de 66,6% et les importations d'échalotes ont chuté de 93%. Il a déclaré que d'autres réalisations au cours des 2 années de travail, à savoir l'amélioration du bien-être des agriculteurs, cela est évident de la baisse de la pauvreté rurale, accroître du taux de chance des agriculteurs et des affaires agricoles. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
C'est Xavier Longten. Après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la construction des icônes bovines par le programme de la viande bovine de Bali. Le gouvernement de l'Indonésie par le gouvernement provincial de Bali, la Direction générale de l'élevage et de la santé animale, en collaboration avec le gouvernement provincial de Bali, en 2017, développe le programme de Bali de la viande bovine visant à développer l'icône du bœuf de Bali avec une valeur de vente plus élevée. En conséquence, les éleveurs de bovins de Bali peuvent obtenir plus de revenus. Le bœuf de Bali est l'une des ressources génétiques animales qui devient la fierté de l'Indonésie. Comme des bouquets de bovins indigènes d'Indonésie, le bœuf de Bali a une excellente capacité de production et de reproduction adaptative. Donc, il est facile de développer. En outre, le bœuf de Bali a la qualité de viande de gamme de 56% de viande molle et supérieure. Le modèle d'élevage de bœuf de Bali est fait abondamment pour compter pleinement sur la nourriture spéciale du bœuf. En conséquence, la viande de bœuf de Bali a la bonne qualité et peut être comparée avec la viande biologique. Certaines études suggèrent que la viande de bœuf de Bali a un grand potentiel pour être développée à la viande de qualité supérieure de la production de viande locale de l'Indonésie. Pour produire de la viande de qualité supérieure, il faut un traitement spécial pour élever le bœuf. Le directeur général de l'élevage et de la santé animale au ministère de l'Agriculture, Iketut Darmita, a affirmé qu'avec le programme de la viande bovine de Bali, le bœuf de Bali n'est plus vendu sous forme d'animaux vivants qui sont moins chers, mais sous forme de la viande de bœuf qui est plus chère. Comment élever le bœuf qui devait utiliser des concepts d'affaires? La présence du programme de la viande de bœuf de Bali soutient fermement le programme du ministère de l'Agriculture en 2016, à savoir l'effort spécial pour accélérer la population de bœuf et de buffles enceintes. Le lancement de ce programme est l'engagement du gouvernement dans la poursuite de l'autosuffisance en bétail ciblée en 2026. On espère que l'objectif d'être indépendant en conformité avec la nourriture des animaux peut être réalisé et cela améliore aussi le bien-être des éleveurs. En mettant en œuvre le programme de la viande de bœuf de Bali, l'icône du bœuf de Bali peut être réveillée et les prix de vente de la viande bovine de Bali approchera les prix du bœuf Wagyu d'environ 350 000 rupiah par kilogramme. Le gouvernement provincial de Bali coopérera avec les parties concernées pour mener l'image de marque de la viande bovine de Bali comme producteur de viande bovine de première qualité. Espérons qu'avec l'introduction du programme de la viande bovine de Bali, l'Indonésie n'a plus besoin d'importer de la viande de haute qualité, parce que la viande de bœuf de Bali est équivalente à la viande de bœuf du standard supérieur de classe internationale, qui est habituellement consommée par de la moyenne à la haute société. Même à l'avenir, l'Indonésie pourrait devenir l'exportateur de la viande de bœuf, en particulier celle de Bali. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'est solitaire, écoutons maintenant notre rubrique aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, l'édition Saint-Janvier. Nous allons commencer le 5 janvier 1933, l'établissement du pont du Golden Gate à San Francisco est commencé. Le Golden Gate Bridge, littéralement le pont de la Porte d'Or, est un pont suspendu de Californie qui traverse le Golden Gate, détroit correspondant à la jonction entre la baie de San Francisco et l'océan Pacifique. Il relie ainsi la ville de San Francisco, située à la pointe nord de la péninsule de San Francisco, à la ville de Sausalito, située à la pointe sud de la péninsule du comté de Marin. Financée par la Work Project Administration, sa construction qui s'est heurtée à de nombreuses difficultés. A débuté au 5 janvier 1933 et s'est étalé sur une durée de 4 ans pour s'achever en 1937. Le Golden Gate Bridge a été jusqu'en 1964 le pont suspendu le plus long du monde et constitue aujourd'hui le monument le plus célèbre de San Francisco. Il est en hautement reconnaissable de par sa couleur orange internationale et par l'architecture de ses deux tours. Selon un classement de l'American Society of Civil Engineers, cette œuvre d'art fait partie de cette merveille du monde moderne. Entre 1919 et 1999, la sanction des États-Unis contre le Cuba est réduite. Daté, le président des États-Unis, Bill Clinton, a annoncé au 5 janvier 1999 que les États-Unis seraient prêts à l'expansion des mesures d'aide humanitaire à Cuba. Parmi les mesures prises par le gouvernement américain est l'autorisation du contact direct entre scientifiques et universitaires des deux pays. Outre les Cubains sont également autorisés à recevoir des transferts d'argent de la correspondance des États-Unis à la service directement entre les deux pays. L'objectif des États-Unis à cet égard est d'infiltrer le peuple cubain à prendre la lutte contre le régime de Castro au pouvoir dans ce pays. Les États-Unis et Cuba ont rompu sur les relations diplomatiques depuis 1977 en raison de leur régime de Castro, embrasse le système communiste et la résistance contre la pression des États-Unis. C'est sur l'idée de TIS. C'était notre histoire du sud de ce soir, l'édition 5 janvier. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie. Avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons maintenant la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Le gouvernement espère l'augmentation des émetteurs de la bourse ». La ministre indonésienne des Affaires financières, Madame Sri Mulyani Indrawati, a expliqué le rôle important des marchés de capitaux dans l'économie indonésienne et espère la participation du marché des capitaux améliore les performances. Dans son discours à l'ouverture du marché de la Bourse de l'Indonésie au début de 2017, mardi à Jakarta, Mme Sri Mulyani a déclaré qu'on a besoin des investissements dans divers domaines pour construire l'économie qui peut être appréciée par les gens. Le marché des capitaux peut combler et faciliter les personnes qui ont besoin d'investissement et fournir une opportunité pour les entrepreneurs qui ont besoin de fonds pour l'expansion. Par conséquent, elle souhaite que le nombre de sociétés ou émetteurs puisse augmenter. Mais elle a exprimé sa préoccupation que le nombre de nouveaux émetteurs seulement cesse, moins d'une cible de la Bourse de l'Indonésie de 25 émetteurs. Enfin, l'objectif a été révisé de l'objectif initial de 35. Ce nombre est le plus bas au cours de ces dernières années. Selon la ministre Sri Mulyani, le marché de capitaux doit faire la réflexion parce que la croissance de la capitalisation du marché qui n'est pas suivie par la croissance du nombre d'entreprises n'est pas de bon indicateur. Sri Mulyani a également demandé à tous les acteurs de marché de capitaux tels que deux émetteurs, l'organisation autoréglementation et l'autorité des services financiers pour augmenter le sentiment d'appropriation des marchés de capitaux. Entrer sur le marché de bourse est facile et non pas quelque chose qui est exclusif et le gouvernement continuera à soutenir le marché boursier, entre autres via la politique économique, afin que les participants au marché des capitaux et les entreprises puissent plus avancer et contribuer au développement national. La ministre des Finances a également exprimé son appréciation pour la performance de l'indice des prix stock composite où Indonesia Stock Exchange ont enregistré le résultat le deuxième meilleur dans la région Asie-Pacifique avec la croissance de 15,32% en 2016. Elle a promis que le gouvernement continuerait d'améliorer le système d'investissement. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le ministère du Commerce a essayé de maintenir la balance commerciale à travers l'application des politiques d'exportation et d'importation et le climat d'affaires concurrentiel. Pour améliorer le climat des affaires, le ministère du Commerce a fait la déréglementation d'importation et d'exportation en simplifiant 49 licences. Le ministre du Commerce, M. Enggar Tiasto Lukito, dans une conférence de presse hier, a déclaré qu'en 2016, la balance commerciale de l'Indonésie a subi un excédent, mais la valeur des exportations et des importations ont diminué. Cela se produit en raison du ralentissement économique mondial. À cette fin, le ministère du Commerce va faire une percée à travers l'expansion des nouveaux marchés et la diversification des produits, ainsi que les efforts de pénétration et de l'accès au marché par le via des négociations commerciales internationales.
Membuka pasar baru di luar pasar-pasar tradisional yang tetap kita garap, yaitu Eropa, Amerika.
D'ouvrir des nouveaux marchés au-delà des marchés traditionnels que nous exploitons, à savoir l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine, etc. Mais le nouveau marché qui sera une priorité et qui aura de côté le type de produit lui-même et d'autre part, nous devons conclure des accords qui ne sont pas résolus, tant bilatéraux et multilatéraux. Le ministre Enggar Tiasto a déclaré que c'était tous les pays d'Afrique, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Iran, le Moyen-Orient et la Russie. En 2016, le ministère du Commerce encourage l'excédent de la balance commerciale, entre autres, avec la mission commerciale telle que Kuwait, l'Oman et la Nigeria-Ghana qui donnent la transaction totale de 18,38 millions de dollars américains. En outre, la mission de l'achat mission a également obtenu avec succès le commerce de 211,87 millions de dollars américains. Le ministre du Commerce, Monsieur Enger, a déclaré que le ministère du Commerce continuerait d'encourager l'excédent de la balance commerciale pour 2017 avec l'augmentation de la compétitivité des produits d'exportation. La compétitivité continue d'être améliorée en facilitant le développement de produits et la fourniture d'informations sur le marché. L'augmentation de la participation des femmes indonésiennes aux activités politiques devrait obtenir la plus grande attention du gouvernement. La coordinatrice de l'Alliance pour les femmes et la politique, Yuda Irlang, a déclaré mercredi à Jakarta que la représentation des femmes en politique n'atteint que 18%, en deçà de la cible de 30% initiée par la loi. Au cours des prochaines élections générales en 2019, Yuda Irlang s'étend à ce que l'objectif de 30% de représentation des femmes soit atteint. Les femmes doivent lutter pour atteindre une position plus élevée en renforçant les politiques affirmatives qui sont mentionnées dans la loi, de sorte que l'objectif de 30% de la représentation des femmes peut être atteint. Un autre, Yuda Irlang, a déclaré que pour accroître la représentation des femmes en politique, il a encouragé les partis politiques et les étatiques à jouer leur rôle pour soutenir cet effort. Selon elle, l'État et les partis politiques étaient l'élément le plus important pour jouer leur rôle dans la création des politiques qui soutiennent le développement des femmes en politique. Le leader de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, visitera l'Indonésie à la fin de janvier 2017 comme une visite d'introduction depuis que ce pays a un nouveau gouvernement en mars 2016. Cela a été déclaré l'ambassadeur de Myanmar en Indonésie, Ou Aung To, en marge de la 69e commémoration de l'indépendance de Myanmar à Jakarta mercredi. La visite des conseillers Aung San Suu Kyi en Indonésie vise à dialoguer avec le dirigeant de l'Indonésie et aussi exprimer ses remerciements pour l'aide et le soutien au peuple de Myanmar. Le 29 décembre 2016, le président Joko Widodo a libéré 10 conteneurs d'aide humanitaire de la population indonésienne pour les gens de Rakhine au Myanmar. En outre, le gouvernement du Myanmar espère, à travers la visite de Aung San Suu Kyi, les relations entre les deux pays plus étroites, notamment dans la coopération économique. À présent, il y a des bonnes coopérations entre les entreprises de l'Indonésie et ses partenaires au Myanmar dans la construction des hôpitaux. Et le gouvernement de Myanmar veut encourager l'augmentation de l'investissement et la coopération commerciale entre les deux pays. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président de la Commission 1 du Parlement, Mutia Hafid, a déclaré que des retards de relations de coopération entre TNI et la Force de défense australienne auraient un impact pour les deux pays. Par conséquent, il a demandé l'explication au commandant en chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, lié au retard de cette coopération. Mutia Hafid, dans les réseaux sociaux, a déclaré mercredi, le commandant de TNI devrait expliquer parce que cette question liée à la sensibilité des relations entre les deux pays. Si la raison est bonne, le gouvernement soutiendra, comme écrit compass.com. Mutia a admis que jusqu'à présent, elle n'a pas reçu les informations liées à le retard de coopération de la TNI et le ministère des Affaires étrangères. Selon Mutia Hafid, chaque retard de coopération a l'impact énorme et inconvénient pour les deux pays. Par conséquent, il espère que TNI et le ministère des Affaires étrangères ont une bonne raison. Le gouvernement améliore les infrastructures touristiques et la gestion des déchets pour augmenter le nombre de touristes qui visitent l'Indonésie. En plus de l'infrastructure, le gouvernement prépare l'hébergement et le transport dans quelques sites touristiques. Cela a été déclaré le ministre de Coordination Maritime, M. Luhut Binsar Panjaitan, au Palais de Bogor mercredi. Selon le ministre Luhut, il est en train de résoudre le problème des déchets déversés dans la mer qui peut contaminer la mer. Le gouvernement utilise les déchets en une source d'énergie électrique. Lié à la construction d'installations d'hébergement touristique, on va améliorer l'investissement à Mandalika, Nusa Tenggara West. Le président Joko Widodo continue à surveiller le développement des infrastructures dans le lac Toba, Sumatra Nord, qui apportera 20 millions de touristes étrangers en Indonésie en 2019. Le ministre de l'Agriculture, M. Andi Amran Sulaiman, a révélé que l'Indonésie était en mesure de passer la menace d'événements El Niño en 2015 et La Niña en 2016. La réussite de l'adaptation de ces deux événements en 2016, il n'y avait pas de pénurie, si bien que la production alimentaire augmente. Les importations alimentaires ont diminué, même il n'y avait pas d'importation. C'est ce qu'a déclaré M. Amran Sulaiman à travers un communiqué de presse reçu par Republika.co.id mercredi. Relatif à la performance d'exportation et d'importation pendant 2 années de travail, Amran Sulaiman a ajouté qu'il n'y avait pas d'importation de riz. Les exportations de riz ont augmenté de 43,7%. Les importations de maïs ont chuté de 66,6% et les importations d'échalotes ont chuté de 93%. Il a déclaré que d'autres réalisations au cours des 2 années de travail, à savoir l'amélioration du bien-être des agriculteurs, cela est évident de la baisse de la pauvreté rurale, accroître du taux de chance des agriculteurs et des affaires agricoles. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Magazine culturel. Et cette fois, nous allons présenter la grotte de Kalibong Aloa, située dans la province de Sulawesi du Sud. Qui sait, il y a une charmante grotte naturelle au milieu d'une vallée escarpée karstique au district de Pangkep, la province de Sulawesi du Sud. Peu de gens sans doute, Kalibong Aloa est son nom. À l'intérieur, il y a des eaux que l'on croit être un élixir de jouvence. Il y a aussi un cristal. Vous êtes curieux? Venez directement au sud de Sulawesi. Kalibong Aloa est l'une des meilleures grottes à Pangkajene, Sulawesi du Sud. Elle est située dans une région karstique qui lui donne une atmosphère très naturelle. La surface de la grotte réfléchit la lumière qui la fait ressembler à un cristal. En outre, cette grotte est remplie de beaux ornements étincelants, comme par exemple il y a la stalagmite en forme de statue de la Vierge Marie qui ressemble faite de neige. La couleur des ornements varie de brun au blanc, les différences de couleur étant dues à l'influence de teneur en calcium. Kalibong Aloa possède une source d'eau claire et cette eau a été étudiée par le laboratoire de l'Université Hasanuddin à Makassar qui certifie qu'elle peut être consommée. Les habitants locaux croient que cette eau est un médicament qui peut ralentir le vieillissement. Selon eux, même pendant les plus longues saisons sèches, le niveau de l'eau ne baisse pas. On trouve l'eau dans la piscine, une sorte de baignoire d'une largeur d'environ 50 cm et d'une profondeur d'environ 10 cm. Il y a environ 5 piscines dans la grotte de Kalibong à Loa. La grotte de Kalibong à Loa est située dans le district Pangkep, Sulawesi Sud. Le district Pangkep, situé à environ 60 km de Makassar, qui est la capitale de la province de Sulawesi du Sud. Pour accéder à la grotte, vous devez passer les rizières et nous pouvons voir l'embouchure de la grotte qui se trouve à une altitude d'environ 200 mètres sur la paroi de la Valais. Dès l'entrée dans la grotte, vous verrez ces beaux ornements. Vous serez surpris par les voûtes de stalactites, stalagmites et autres ornements de la grotte. Vous serez étonné par les voûtes de stalagmites et autres ornements de la grotte. La pièce principale de la grotte en forme de salle. À l'intérieur, il y a des rochers disposés comme les sièges d'une mariée. Chers amis, c'était notre programme magazine culturel intitulé La grotte de Kalibong à Loa dans la province de Sulawesi du Sud. Merci à tous et à demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Voici le magazine de la couleur indonésienne, édition de jeudi. Avec moi, Muhammad Suartono. Pour cette édition, on explore le sujet à propos des végétales alternatives à l'ère des changements climatiques. Des différents facteurs rendent la saison sèche, notamment en 2015, qui prend plus de temps que d'habitude. Cela aggrave les incendies de forêt ou bien fait sécher le sol, de sorte qu'il devient improductif. Donc, c'est pourquoi l'homme cherche l'autre aliment pour nourriture. À propos de cela, à cause de la sèche et de l'improductif de sol, l'Institut indonésien de sciences LIPI avait expédition Widya Nusantara qui fait au mois d'avril jusqu'au lot 2016. Et d'après le résultat, cette expédition a révélé l'existence de plantes qui peuvent survivre dans des terres très sèches. Cette plante nomme Jawawut ou Lors, ou bien dans le latin Sataria italica. Ce plant comme type de plante de céréales à petits grains qui est l'aliment de base au nombre de pays, y compris plusieurs régions en Indonésie. Malheureusement, on commence à ignorer cette plante. Bien que cette plante contienne des aliments nutritifs, protéines et de calcium, étant mieux que le riz, un membre de l'équipe de chercheurs, Madame Dwi Setrorini, a dit « Cette plante est abondante et diversifiée dans les régions de Sumba, en province de Nusa Tenggara de l'Est. » Selon elle, son équipe a trouvé 13 espèces de plantes situées à une altitude plus de 500 jusqu'à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un type d'ors se trouve dans le village de Wangameti, dans le parc national de Laiwangi, Wangameti, Sumba. Cette région est située à l'altitude de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, et mais très sec. Si bien que le jauge de l'humidité et acidité du sol amenée par les chercheurs ne pouvait pas percher. Mais l'orge peut cultiver dans ce sol très sec. Basé sur l'analyse de potentiel osmotique, le sol est très sec. Les plants meurent généralement dans cet état. Cependant, Jawa Wood ou l'orge cultive prospère toujours. Pour lui, qui poursuit la culture génétique, tout ça est un phénomène intéressant. De plus, Sumba en Indonésie, donc on peut se faire facilement sur ce plan. Si ces études sont réussies, l'avenir peut être une référence pour nous. Actuellement, Dwi Retno a recueilli la variété des grains d'orge et d'autres cultures pour faire des recherches dans l'avenir. Selon Dwi Retno Rini, Jawa Wood ou l'orge répondra à la dépendance sur le riz et le maïs, ainsi que la pluie qui pleut pendant 4 mois par an. Il espère qu'on peut améliorer l'orge non seulement comme substitution des repas ou de la nourriture alternative, mais aussi comme aliment de base. Dwi a ajouté, bien qu'on doive toujours continuer les recherches, la capacité de survivre dans la terre très sèche rend le potentiel d'orge comme les cultures vivrières à l'ère du changement climatique. En plus d'avoir la bonne valeur nutritive et peut survivre sur la terre ferme, l'orge a également la valeur économique assez élevée. Par exemple, le paysan de la région Merigi Sakti et Merigi Kelindang en province de Bengkulu Central ont déjà commencé à planter ce plant d'orge sauvage comme riz qui pousse entre le riz aux rizières. Le paysan a vendu un sachet ou un centime de graines d'orge a été vendu pour 10 000 rupiah ou bien moins d'un euro ou égal à 1 kg de riz. Chers amis, c'était la couleur indonésienne ayant le titre l'orge ou Jawa Wood, le plan pour répondre à la menace de changement climatique. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.vu.co.id. Entre autres, vous pouvez également être émission par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter un chanteur, Alfian. Ses auditeurs, à l'ère des années 60, l'une des chansons pop qui est très populaire est la chanson intitulée « Inui Atia Anjur ». Cette chanson raconte un homme qui tombe amoureux d'une belle fille dans la ville de Cianjur. Une ville qui a l'air fraîche dans la province de Java West, qui est célèbre pour son riz qui est très délicieux. En plus d'avoir le beau panorama naturel, des filles de Cianjur sont aussi célèbres pour sa beauté. Pas étonnant, lorsque vous visitez Cianjur, vous ne vous êtes intéressé pas seulement à la beauté de la ville, mais aussi par la beauté des filles. Et tout cela s'est reflété dans les paroles de chanson intitulée « Inui à Cianjur ». Bon, chers auditeurs, voici la chanson d'Alfian intitulée « Inui à Cianjur ». Bonne écoute.
Apa indah semua. malam di Cianjur. Janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam. Berat rasa perpisahan, namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Kau ucapkan penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam. Berat rasa perpisahan, namun berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi.
Sekreditor, setelah sang song Dalvian ang titulé Inuit de Cianjur. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Sekreditor, Alfian est un chanteur très populaire aux années 60. Outre la chanson Inuit de Cianjur, d'autres chansons intitulé Crépuscule à Caïmana est très populaire chez les amateurs de chansons pop à ce moment-là. Cette chanson est composée dans mémoire au Crépuscule à Caïmana en Papouasie. Bon, serviteur, voici la chanson suivante d'Alfian intitulée Crépuscule à Caïmana. Bonne écoute.
Selalu kan ku kenang selalu senja indah senja di Caimana. Seiring surya meredupkan sinar di kau datang ke hati berdebar. Kau usapkan tangan halus mulus di luka nan parah penuh debu. Senja di Caimana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa. Thank you.
ungkapkan tangan halus mulus di luka kanan parah penuh debu senja di kaimana dan kasihmu darah dalam jiwa sampai akhir masa kan ku ingat senja di kaimana.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur Alfian. À l'ère 60, le nombre de chanteurs de chansons pop indonésiennes était petit et aussi il n'y avait pas beaucoup de studios d'enregistrement de chansons qu'à présent. Maintenant, le studio d'enregistrement de chansons est facile à trouver. Il est donc difficile pour un chanteur d'enregistrer une chanson pour un album. Au fil du temps, le nom d'Alfian est disparu de temps en temps, mais ses chansons peuvent être entendues jusqu'à présent. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson d'Alfian intitulée « Petit bateau sur la rivière Moussi ». Bonne écoute et à bientôt.
Terpesona aku melihat wajahnya, tak kalah aku duduk di dekatnya. Sebiduk seiring aku menyeberang, berperahu ke seberang sungai Musi. Ku tegur dia, namun hati enggan. Tak sabar, hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya. Sekilas tampak olehku senyumnya. Tiba ia menolehku, ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai. Namun hati enggan, tak sabar hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya. Sekilas tampak olehku senyumnya. Tiba ia menolakku, ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biduk
telah merapat ke pantai.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.